Voici Dan Bigras.
Alors, rebonjour. Ma question de deuxième heure, c'est depuis la pandémie, est-ce que vous avez remarqué que l'anxiété a augmenté autour de vous? C'est très important. Autour de vous, c'est à la maison, à job, dans la rue, partout. Pour me parler, vous pouvez m'appeler au 514-790-9850 ou en dehors de la ville de Montréal, de la région de Montréal, 1-866, ça en ferait 790-9850. Et on va parler tout de suite à Myra Gravel-Crevier, qui est psychologue et copropriétaire de la clinique d'anxiété de Laval. Bonjour, Mme Gravel-Crevier.
Oui, bonjour.
Oui, vous allez bien?
Oui, merci, vous?
Oui, très bien. Pas trop anxieuse?
Non, ça va.
C'est bien géré, ça va?
Oui. Oui, c'est important de bien gérer.
L'anxiété, c'est quelque chose de différent que juste l'angoisse. L'angoisse, c'est plus immédiat. Il y a un danger, je ne sais pas, il y a un char qui va nous rentrer dedans, on fait un saut, on se tasse. L'anxiété, c'est plus diffus, puis ça ne s'identifie pas toujours immédiatement. Surtout quand on parle de nous, on a tendance à faire un peu de négation, à se cacher ça dans le fond. Je dois sûrement plaider coupable un peu, parce que moi, c'est... Il y a beaucoup de gens qui m'ont confondu avec quelqu'un de calme et je ne le suis pas. Le calme, pour moi, est une façon de gérer mon anxiété. Est-ce que c'est un peu le système qui est cherché par la plupart des gens?
Mais c'est vrai, des fois, qu'on peut percevoir du calme chez une personne, ça n'empêche pas qu'il peut avoir une tempête à l'intérieur quand même.
Là. Oui, oui.
En fait, il y a beaucoup de gens dans notre société qui vont très vite, qui se disent anxieux. C'est vrai que c'est délicat, c'est diffus, parce que l'anxiété, c'est vraiment l'anticipation d'événements fâcheux qui pourraient éventuellement arriver. Puis ça se passe souvent par des manifestations de toutes sortes de pensées anxieuses, souvent des émotions associées à ça, et beaucoup de sensations physiques qui peuvent être difficiles, les maux de ventre, la difficulté à respirer, une espèce de tension intérieure. Ça s'accompagne de plusieurs types de manifestations d'anxiété et ça prend plusieurs formes également.
Et c'est souvent des constructions, ces anxiétés-là. On s'imagine des choses. On se construit un scénario et peut-être que ça répond simplement à des vieilles blessures, puis c'est une façon de les concrétiser. C'est ça le problème. Ce qu'on traîne toute notre vie, je veux dire, si t'as souffert, t'as beau déménager puis aller vivre à Hong Kong, aller vivre dans 12 pays, tu vas traîner avec toi ce qui te fait souffrir. Donc, le comportement anxieux a l'air d'être une espèce d'exutoire pour ça.
Ben, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans tous les troubles de santé mentale, ça inclut l'anxiété, ça prend souvent des conditions prédisposantes. Donc, quand on a un tempérament, même comme bébé, qui est inné, où on peut être plutôt réactif. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue aussi. Est-ce qu'on a appris que notre environnement était sécuritaire ou plutôt d'en avoir peur? Quel genre de déclencheur? Et là, on y reviendra, mais tout ce que la situation de la COVID, ça représente un fort déclencheur. Si on a déjà ce terrain-là qui est fertile, si on a des éléments qui viennent maintenir notre anxiété, c'est sûr que ça va rester peu importe où on voit cette anxiété-là.
Parce que toutes ces angoisses-là se mélangent à un moment donné, on n'en voit plus le bout. Je suis devant un article de la presse très intéressant de Maïssa Ferra qui parle d'une étude, le film de Loat, qui envisage 2,6 fois plus de consultations auprès des professionnels en santé mentale. Donc ça, c'est vous, entre autres. Mais ça, c'est entre 2 et 3 fois plus. Et on estime que les ordonnances d'antidépresseurs pourraient augmenter de jusqu'à 20 %. Évidemment, c'est pas des prévisions précises, c'est un scénario. Mais quand même, c'est comparable en ces temps de COVID à des taux d'angoisse, peut-être des récessions de 90-2008 au Canada. Puis vous souvenez-vous des gros incendies là, de la forêt Fort McMurray en Alberta? Les gens étaient restés marqués mais des années. Ils le sont encore. C'est pas tout parti, c'est pas tout soigné. Alors, quand on a des traumatismes, je parle pas des traumatismes d'enfants, je parle de ce qui se passe en ce moment. On va en parler pendant, ça va être dans les livres d'histoire, ce qu'on est obligé de traverser collectivement. Est-ce que ça crée pas une anxiété qui va devoir se soigner pendant des années?
Mais c'est une possibilité. En fait, ces chiffres-là sont quand même pas surprenants. Faut comprendre que l'anxiété, on en parle de plus en plus. Les gens s'identifient de plus en plus avec des symptômes anxieux. Et heureusement, il y a une grande ouverture, plutôt maintenant, de pouvoir aller chercher de l'aide et de consulter. Mais c'est ça, avec tout ce qui arrive, on peut s'attendre que ça va hausser les niveaux d'anxiété de d'autres genres de troubles de santé mentale aussi. Mmh. Ce qui est à comprendre, c'est pas juste l'anxiété, la peur de contracter la maladie. C'est tout autour de ça. Et chaque situation est unique et différente. Les gens qui vivent un stress financier, des pertes d'emploi, la situation du confinement avec des parents qui se retrouvaient sans garderie, sans école, avec une incertitude constante, des séparations au travers de ça. On n'a pas terminé non plus de s'ajuster dans ça. Donc, encore en ce moment, les gens vivent énormément de stress et aussi d'anxiété dans l'incertitude et l'évolution constante qu'on a des informations de ce qui va se passer.
On dit que l'anxiété n'est pas une maladie solitaire. Elle se promène à plusieurs. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs, évidemment, comme ce qu'on vit en ce moment. On sait que dans les pertes d'emploi, 68% des pertes d'emploi sont des femmes, des mères de famille monoparentales. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Je serais très angoissée aussi.
Totalement. Il y a une partie qui est très, nous, on va dire, normative. C'est normal que les gens soient quand même, d'une certaine mesure, stressés. Parce qu'effectivement, pendant le temps des garderies fermées, les écoles aussi, ben les mamans se retrouvaient à la maison, des fois, à faire du télétravail en même temps. Très difficile à concilier. Puis en même temps, c'est une partie du problème qui fait aussi une partie de la solution. C'est de comprendre, entre autres, pour nos entrepreneurs, nos entreprises aussi, l'objectif ne sera pas de revenir en arrière. Et même pour les gens, de trouver des nouvelles façons de faire. Plusieurs personnes ont goûté au télétravail et pour une fois, on peut vivre une certaine expérience de conciliation travail-famille qui pourrait être une éventualité une fois justement les garderies le reprennent, les écoles vont reprendre. Trouver des nouvelles façons de faire pour peut-être même aller chercher dans le futur
oui, c'est de l'adaptation.
Une meilleure qualité de vie.
C'est de l'adaptation,
oui,
c'est un instrument de survie, ça.
Totalement.
L'humain a survécu parce qu'il s'est adapté. Mais justement, je pensais à un de mes chums qui a fait une dépression à un moment donné, puis bon, un an après, il dit « Voyons, ça revient pas comme avant. » J'ai dit « Tu sais, ça reviendra pas comme avant. » Il a pensé une demi-seconde, puis il m'a dit « Ah, il y a une maudite chance, ça reviendra pas comme avant. » Alors, lui, il avait eu un mouvement en avant, même s'il était plus faible, puis il n'arrivait pas à faire tout ce qu'il voulait encore, puis ça le frustrait. Il dit non, je retournerai pas jamais où j'étais. C'est évident que dans une situation où on a des angoisses très réelles de situation financière, de tout, qu'est-ce qui va arriver avec notre avenir, est-ce que nos enfants vont être malades, toutes des vraies questions. Il arrive un moment donné où c'est de l'angoisse par-dessus l'angoisse. Alors que dans une crise, on le sait, tous ceux qui font de la gestion de crise essaient de gérer ça le plus calmement possible. Mais évidemment, l'angoisse qu'on vit en société en ce moment fait grimper déjà notre propre angoisse qu'on avait pré-COVID. Et à quel moment est-ce que vous considérez que on est débordé par l'angoisse?
En fait, au moment où l'angoisse, l'anxiété prend trop de place, là, souvent, il y a deux indicateurs qu'on va regarder. C'est le niveau de détresse perçu par l'individu, donc à quel point la personne ressent une détresse qui devient envahissante et à quel point ça l'interfère avec son fonctionnement quotidien. Donc, éventuellement, capacité à travailler, capacité à prendre soin de soi, capacité à prendre soin des autres aussi. Dès qu'on sent qu'un des deux critères, là, ça fonctionne plus, généralement, c'est un motif personnel qui peut être suffisant pour aller chercher de l'aide. C'est sûr qu'il y a beaucoup de problématiques en ce moment, puis il nous manque d'informations, à savoir déjà avec la rentrée à l'automne, les écoles, comment ça va se passer, on a besoin d'informations pour que les parents soient capables de s'adapter. Puis il y a vraiment une réflexion de fond aussi, comme société puis comme individu, entre autres avec le confinement, mais comment je place mes valeurs, quelles sont mes priorités, comment je vais me réorganiser, comment je vais mettre mes relations au centre de ma vie, qu'est-ce qui est possible, comment la réalité du travail va s'accommoder avec ça. Il y a beaucoup de choses à réfléchir puis à passer. Puis ce qui a pu sauver un peu la situation, c'est qu'on arrive à chercher un sens dans la mesure du possible. Et c'est la même réalité qu'on voit dans les gens qui ont vécu un état de stress post-traumatique, là, des événements très graves. Arriver à trouver une certaine forme de sens puis être capable de chercher une solidarité de société pour favoriser notre résilience, là, comme tout le mouvement, par exemple, d'achat local, être créatif. On a vu des professeurs donner des cours en ligne gratuitement, des artistes donner des spectacles, des vidéos. Il y a eu un élan de solidarité qui nous dit ben, il ne faut pas oublier que ce soutien-là collectif, c'est ce qui va nous aider à passer une nouvelle étape. Et le but n'est pas de revenir en arrière, comme avant, mais de faire différemment. C'est là que chaque individu, famille, est
Je crois qu'aussi, il y a le but qu'on se fixe quand on est anxieux. Quand on est anxieux, c'est souffrant, l'anxiété, c'est très souffrant. Donc, on voudrait qu'il n'y ait plus d'anxiété, mais c'est un très, très, très mauvais but. Il faut en garder. Il faut juste avoir un niveau d'anxiété qui est tolérable, raisonnable, avec lequel on peut vivre. Si on se met comme but de ne plus avoir d'anxiété, on va toujours être anxieux parce qu'on ne va jamais réussir. Ce faisant, on grimpe notre anxiété encore. Avoir peur, ça existe, là.
Ah oui, puis c'est une spirale très négative qui tire beaucoup vers le bas. Puis effectivement, l'objectif, c'est plutôt d'être capable de le comprendre, de l'accueillir et de le gérer au mieux. Parce que quand on a une certaine forme de stress qui nous amène à être dans l'action, qui nous mobilise, qui nous permet d'avoir les idées claires, de trouver des solutions à nos problèmes, ah, ça nous mobilise, ça va bien. Mais quand c'est plutôt le contraire, que ça
nous écrase,
ça voit les cartes, c'est difficile, ben là, c'est plus une nuisance. Donc, ça m'amène à la détresse et sûrement que ça interfère avec mon fonctionnement. Là, j'ai des critères à peut-être un petit peu plus surveiller puis à faire attention. Mais on ne va pas l'enrayer. Il faut juste être capable de le voir aller.
Oui, oui, c'est normal. Puis faut pas chercher à l'enrayer. On se met une commande. Non. Ça, c'est comme les gens qui veulent se faire aimer par tout le monde. Ils vont passer leur vie mal aimés. Ça n'existe pas être aimé par tout le monde.
On va travailler fort.
Oui, oui.
C'est comme ça, on essayait d'arrêter de penser. On n'arrêtera pas de penser. Non, si non, on non, va c'est le contrôle.
Le soulagement total n'arrive pas. C'est pas ça. Puis c'est pas ça qu'il faut viser. On se rajoute de la pression quand on fait ça, puis on se fait mal. Madame Gravel-Crevier, je vous garde avec moi parce que je vais répondre à des questions de nos auditeurs. Alors, vous allez répondre à des questions de nos auditeurs. Gênez-vous pas, prendre la parole quand vous voulez. On va parler à Guy tout de suite. Bonjour, Guy.
Bonjour, vous allez bien?
Très bien, vous.
Pas trop stressé?
Non. Non, en fait, exactement comme je disais à Mme Gravel-Crevier, juste assez.
Bon. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que mon niveau de stress a augmenté énormément. Oui. Premièrement, tout ça est arrivé dans un changement de vie important. J'ai pris une retraite avant le temps parce que je vivais un burn-out. Oui. Donc, j'étais dans ma deuxième année de burn-out quand j'ai pris ma retraite, donc avant le temps. Et naturellement, là, quand tout ça est arrivé, tu prends ta retraite, tu te rends compte que tu peux plus faire ce que tu avais prévu dans ta retraite. Et puis là, tu essaies de t'en sortir. Et là, tu te retrouves, tu dis, bon ben, j'arrive pas avec ma retraite, je vais aller faire quelque chose. Tu peux pas aller faire rien parce que où il y a presque rien de disponible, c'est rendu du télétravail. Donc, faut s'adapter au télétravail. On vit des frustrations parce que les systèmes sont pas adéquats. Mm-hmm. Fait que moi, dans tout ça, tu viens pour avoir des services, c'est tout électronique, t'as de la difficulté à parler aux gens. Ça fait augmenter mon niveau de stress.
Oui, puis quand t'es anxieux, t'as besoin d'un contact humain, tu peux pas parler un ordinateur toute la journée.
Exactement. Hier, je l'ai vécu énormément là, avec un service de banque. Là.
Oui.
Et puis, on se retrouve qu'on parle. Ils ont développé des machines qui répondent jusqu'à certaines limites comme des humains. Puis après ça, tu te retrouves, tu n'as pas de réponse à ce que tu veux avoir. En tout cas, ça fait monter le stress. Je comprends que tous les services ils sont engorgés. Mais le stress monte. Puis moi, quand ça monte, là, c'est vraiment, là, je viens comme enragé. Même hier, là, j'ai dit, garde, je vais faire un tour. J'ai pris mon auto, je suis allé faire un tour. Puis mets la musique au bout. Puis j'ai laissé décompresser. Mais ça fait monter vraiment mon niveau de rage en dedans.
Oui,
et
je
puis je serais prêt à garocher tout là, quand ça arrive. Là,
non, je vous comprends parce que c'est un mur. Là. L'hyper-technologie. Écoutez, moi, j'appelle au refuge, là, puis il y a juste deux possibilités d'appel. C'est une machine qui te répond pour l'administration, le 1, pour le plancher, le 2. Juste cet appareil-là me tape ses nerfs. Et pourtant, t'as deux pitons. C'est pas si... Mais c'est pas un humain qui me parle, ça m'énerve. Et puis, évidemment, je pèse sur un, puis là, bon, on se parle, ça va vite. Mais je peux comprendre qu'à un moment donné, dans plusieurs sphères de notre société, on se heurte à de l'hyper... l'hyper-progrès, si vous voulez, technologique, mais qui déshumanise complètement. Puis quand on a besoin de contact humain, et on a tous besoin de contact humain, ça peut être extrêmement désorientant et souffrant. Merci beaucoup, Guy, d'avoir appelé. Je dois prendre une pause, mais on va en rediscuter au retour, tout de suite après la pause.
Témoignages, échanges, discussions. Jusqu'à midi, vous écoutez Dan Bigra.
Alors, je vous rappelle que je suis avec Mme Myra Gravel-Crevier, qui est psychologue et copropriétaire de la clinique d'anxiété de Laval. Là, on a écouté l'appel de Frank, qui, finalement, nous a parlé d'hypertechnologie, nous a parlé d'hypertechnologie. Il se heurte à des machines tout le temps. Il n'y a personne qui lui parle. Il doit soigner son anxiété et ses états d'âme sur un ordinateur. Il me semble, Mme Gravel-Crevier, je trouve ça extrêmement anxiogène.
Ben, la première des choses, c'est qu'il a dit que c'est frustrant. Et c'est important de déjà l'accueillir. Du moment que ça frustré, on a des attentes de pouvoir avoir plus de clarté dans les situations personnelles qu'on vit, de parler à quelqu'un, y voir plus clair.
Oui.
Donc déjà qu'il puisse le nommer puis faire de la place, il a nommé des bons moyens pour se calmer. Bon, je vais dans la voiture, j'écoute de la musique, tout ça. À un moment donné, pour faire baisser un petit peu la pression. Puis de l'autre côté, ce qu'on est en train d'apprendre à cultiver, beaucoup de ces temps-ci qui n'est pas évident, plus qu'on aime le contrôle, c'est de cultiver l'indulgence envers soi-même, mais envers les autres puis le système.
Ah, oui.
Il faut donner du temps au système de se placer. Toutes les entreprises essaient en ce moment de faire leur mieux. Puis c'est peut-être pas tout le temps adéquat, mais il y a de l'effort qui est derrière. Puis tout le monde doit être patient dans ça.
Et faire attention de ne pas se punir. Moi, j'avais connu un musicien quand j'étais plus jeune. Il écrivait des chansons, il était brillant. Mais il disait, c'est un milieu de ci, puis un milieu de ça, puis il dit, gars, j'en ferai plus des tunes. Puis moi, la seule pensée qui m'est venue, je me dis, c'est parce que tout le monde va s'en sacrer. Ils n'ont jamais entendu tes tunes. Je me dis, tu es le seul que tu punis par ton geste de colère. Alors, l'autopunition est quand même une façon de réagir à l'anxiété, une très, très mauvaise façon. Mais c'est une façon, je suis certain, qui n'arrive pas juste à une personne. Ça arrive à plusieurs. On va parler à Frank. Bonjour, Frank.
Oui, bonjour.
Oui,
bonjour, M. Bigra. Ça va bien?
Ça va très bien.
Oui, bonjour à votre... à Mme Crevier aussi.
Oui.
OK. Puis, moi, je suis quelqu'un qui souffre beaucoup d'anxiété. J'ai fait un travail beaucoup sur moi-même depuis 25 ans. Puis, je suis un enfant assez timide à l'école, très lunatique, très manque de confiance. Qu'est-ce qui m'a aidé à me dégêner sur le sport, le hockey, le baseball, le soccer? Puis, avec le temps, mon chemin personnel, j'ai pris conscience, j'ai été abusé par un pédophile à 12 ans. Puis ça, c'était caché dans mon subconscient, puis c'est revenu sur la surface à 36 ans au travail.
Mm-hmm.
Ça m'a causé beaucoup de gêne, beaucoup de d'anxiété avec mes collègues, parce que j'étais un gars qui a travaillé beaucoup sur moi-même, croissance personnelle, psychologue, puis pas quelqu'un d'alcoolique qui voit après le travail avec des amis, des chums, avec des bars, choses comme ça. Puis ça, je m'isole beaucoup par rapport à ça. Puis je parle avec du monde aussi, qui on a le même cheminement, mais ça me cause beaucoup d'anxiété. Puis là, je commence à travailler la semaine prochaine, là, du lundi au jeudi. Je travaille dans une grosse hôtel pendant du centre-ville. Puis ça fait quand même 26 ans que je suis là, puis ils comprennent toute mon anxiété, mon histoire, mais... À un moment donné, c'est ça, je suis en train de suivre un psychologue présentement, qu'on travaille là-dessus ensemble. Mais, excuse-moi, je suis un peu nerveux, je ne suis pas du tout de la ligne ouverte, ça me subira.
Mais moi, je veux te dire, c'est parce que tu me parles que tu es anxieux, mais moi, je te trouve beaucoup de courage.
Okay.
C'est énorme, je veux dire, moi, j'ai le trac quand je vais parler au monde, puis c'est censé être ma job, je suis censé être habitué, puis vous... vous êtes très anxieux, puis vous avez le courage de le faire. D'après moi, vous avez le courage de trouver certaines solutions. Ça n'empêche pas la souffrance. C'est garanti. Je respecte ça complètement et l'hyper-anxiété.
Ouais.
Mais vous faites des choses. Parler à la radio, tout ça, c'est quelque chose, là. Je trouve ça intéressant.
Je suis fier de moi. Ça n'arrive pas souvent, monsieur, mais ça me dégêne un peu plus parce que je suis un gars bien famille à la société par rapport à mon cheminement. Puis ça me... Beaucoup de problèmes de dépenses, beaucoup de problèmes. J'en ai vu, monsieur, des psychologues dans ma vie depuis 10 ans, là. Même ma mère me dit, arrête. Il trouve un nouveau dossier, achète un nouveau psychologue. T'es pas étourdi. Concentre-toi sur une, puis concentre-toi sur qu'est-ce que t'as à faire pour gérer mon anxiété.
Oui. Mais vous avez parlé d'une chose, par exemple, je sais pas moi, le problème de dépense. Mon ex-blonde avec qui j'étais pendant des années, elle avait mis sur pied, puis je fais une comparaison, mais elle n'est pas tout à fait juste parce que c'est pas votre comportement à vous, mais elle avait fait, il y avait des dames qui se faisaient prendre pour vol à l'étalage à répétition, alors que visiblement, ce qu'elle volait, elle pouvait se le permettre. Donc on voyait bien que c'était pas un problème d'argent, c'était un problème. Et on s'est aperçu que c'était souvent des anciens agressés sexuels qui essayaient de se réapproprier quelque chose qui leur avait été enlevé de force. Parce que le pédophile, ce qu'il vous a fait, c'est ça. Exactement, il vous a enlevé votre libre choix.
Exactement. Puis à part ça, M. Bigra, là, votre livre est vraiment wow, hein. Puis vraiment, là, je suis rendu au chapitre 8, là. Puis, monsieur, là, je lève mon chapeau. Vous êtes vraiment, là, moi, j'ai un frère schizophrène aussi. Il a fait beaucoup d'hôpitaux psychiatriques, là, radio, à l'Ouest La Fontaine, là.
Oui.
Puis, votre livre, là, m'interpelle beaucoup, là. C'est incroyable. Et, à un moment donné, j'aimerais ça de vous rencontrer pour signer mon livre parce que vous êtes une personne assez pour moi, puis ma famille, quelqu'un de. Je vous connais pas personnellement, là. J'ai jamais vu de vos spectacles. Mais je pense je vais aller faire un don au refuge, puis je vais aller vous voir.
C'est gentil. Restez en contact avec ma recherchiste après. Ouais. Et puis, faites attention quand même, la psychiatrie diagnostique, parce qu'ils ont des traitements appropriés à chaque cas. Alors, ils regroupent beaucoup les souffrances, mais schizophrénie ou troubles d'anxiété, d'après moi, c'est souvent des gens qui ont été exposés à des horreurs et puis qui doivent réagir. Et justement, vous vous décriviez comme un jeune qui était silencieux, qui dérangeait pas, etc. Vous savez que c'est souvent ces enfants-là qu'on échappe. Les petits tannants, on les remarque. Alors, ne serait-ce que pour les calmer parce qu'ils dérangent la classe, il y a quelqu'un qui s'en occupe à un moment donné. Puis ceux qui passent au travers des mailles du filet, qui souffrent le martyr puis qu'on voit pas, c'est les petits tranquilles. Alors, je vous souhaite vraiment prendre tous les moyens pour vous soigner, y compris d'avoir appelé ici. C'était une petite goutte dans l'océan, mais c'est un petit quelque chose que vous avez fait que je trouve extraordinaire. Passez une belle journée, monsieur.
Merci beaucoup.
Au revoir. Qu'est-ce que vous pensez de ça, madame Gravel-Crevier? Quelqu'un qui est hyper anxieux, qui a été agressé, donc qui vit avec l'horreur de ce souvenir-là, et évidemment tout ce que ça a brisé à l'intérieur de lui, et qui est capable d'appeler à la radio pour en parler. Il y a du courage là-dedans.
Totalement. En fait, c'est la première chose qui me venait spontanément en tête, c'est qu'on a un bel exemple d'un homme ici qui est courageux, qui est capable de nommer qu'il y a des difficultés qu'il vit en ce moment, d'une part, mais surtout de l'autre, de prendre action face à ses peurs, face à ses difficultés, ses symptômes, puis d'aller chercher même de l'aide. C'est un très bon exemple à être capable de retenir. Puis, petite parenthèse, c'est sûr qu'il faut comprendre que quand on parle d'événements traumatiques vécus tôt dans l'enfance, c'est souvent, oui, des symptômes d'anxiété, mais des symptômes parfois même de stress post-traumatique. Et c'est souvent...
Dans les réflexes de stress post-traumatique, il y a souvent la négation qui embarque sur toi, l'enfance. C'est pour ça qu'ils se souviennent de ça, des fois, 40 ans plus tard. Là.
Il y a des mécanismes qui se mettent en place au niveau cognitif et toutes sortes d'études
par rapport
au cerveau qui se passent. Exactement. Il y a des fonctions à ça, puis il faut comprendre que c'est particulier, puis ça peut survenir plus tard, mais dans les situations comme ça où on voit clairement qu'il y a des impacts. C'est un bon exemple qu'on en parlait tantôt, signal d'alarme, que là, c'est bon d'aller consulter parce que ça vient toucher beaucoup de vulnérabilité, puis ça a définitivement un impact sur la détresse ressentie et sur la capacité à fonctionner dans le quotidien.
Moi, Frank m'a inspiré, je donne mon soleil la journée, lui. On va parler à Nathalie. Bonjour, Nathalie.
Bonjour à vous deux, ça va bien?
Oui, d'habitude, vous êtes préposé aux bénéficiaires.
Oui, mais là, je suis en arrêt de maladie parce que, de toute façon, on s'entend qu'en étant préposé, on se bat contre une bébite qui est invisible, mais tellement mortelle.
Oui.
Puis je voyais pas, je travaillais, puis je voyais pas que j'étais en train de m'oublier là-dedans parce que tu veux te protéger tes résidents et surtout... protéger ta famille quand tu reviens aussi, de ne pas leur apporter ça. J'ai un mari qui est cardiaque et puis j'ai un fils qui est autiste avec des problèmes de santé pulmonaire. Puis en 2009, j'ai fait une grosse dépression. Je suis une personne qui a un fort caractère, qui s'en laisse pas imposer. Je suis pas diplomate nécessairement. mais j'ai tombé vraiment de haut. J'ai été 2 ans non fonctionnelle, puis là, je suis en arrêt de travail depuis 2 mois avec un épuisement puis une surcharge pour un arrêt de travail indéterminé.
Est-ce que c'est... évidemment, tout ça a été précipité par la crise. Vous êtes préposé aux bénéficiaires. Vous êtes en première ligne de l'anxiété. Alors, celle des patients, la vôtre, la peur de contaminer vos proches, tout ça, je comprends que tout ça est important, mais est-ce que vous croyez que c'est ça la cause ou c'est un déclencheur à une anxiété qui est plus généralisée puis qui daterait de plus longtemps? Je vous pose la question.
C'est depuis longtemps. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, j'ai vécu dans le déni. Puis je me disais, ben non, je suis bien trop forte, ça arrive un qu'aux autres. C'est quand que ça m'est arrivé. Parce que moi, si j'ai pas d'antidépresseur, puis j'ai pas de pilule pour dormir, je fais de l'insomnie à côté. Mmh. Je suis anxieuse pour un oui, pour un non. J'ai un mari qui est très patient. Ça fait 38 ans qu'on est ensemble, puis je vous dirais que chapeau, parce que je suis pas évidente à vivre. Et je vous dirais aussi que ça date de plus loin que ça, là. Ça date de beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Ma première dépression, j'ai été suivie avec une thérapeute, une travailleuse sociale durant 2 ans pour essayer d'aller chercher le bobo. Qu'est-ce qui avait provoqué toute cette angoisse-là?
Est-ce que ça vous a aidé?
Là, ben là, présent. Oui, ça m'a gros aidé. Puis depuis ce temps-là, ben là, c'est sûr que la vie est plus la même. Je ne suis plus la même non plus depuis ça. Mais là, je me disais, on combat, comme je vous dis, la bébite, hein? La bébite est invisible. Mais moi, j'ai toujours dit, tu sais pas quelle souffrance qui peut se cacher en arrière d'un sourire.
Ah non, non, ça c'est clair, 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 clair. Juste une dernière petite question, je dois aller à la pause. Est-ce que vous croyez, parce que maintenant vous connaissez les symptômes de dépression, est-ce que vous croyez que vous auriez peut-être pu faire une dépression étant enfant?
Ah oui, oui, oui. J'ai probablement accumulé parce que j'avais un père alcoolique puis une mère qui était contrôlante.
Oui.
Puis moi, ben, je suis la dernière. Puis c'était comme on dirait, j'étais comme le souffre-douleur. Là. Elle pouvait pas faire. La mère, elle pouvait pas avoir des contrôles sur les 3 autres, mais avec moi, elle essayait de faire ce qu'elle voulait vraiment. Ça m'a coûté cher. Ça m'a quasiment coûté ma vie de famille, justement, par rapport à ça. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Pas de déni, mais je me suis dit... Je m'étais donné comme mandat que j'étais pour être plus forte que les autres pour leur montrer de quoi j'étais capable.
Oui, puis c'est là où vous vous êtes fait attraper parce que du syndrome post-traumatique comme ça, d'après moi, je suis pas médecin, là, mais c'est mon avis, et de l'anxiété et de la dépression comme ça, ça marche pas être tough. Être tough, c'est contre quelque chose d'identifiable. T'es à la guerre, quelqu'un avant toi, faut que tu te battes avec. T'es dans un ring, c'est la même chose. Les menaces identifiables. Mais pour ce qui est à l'intérieur, c'est la pire chose. Parce que ce qu'on prend pour du tough, c'est de la négation. Et puis on finit par y rester. Je suis content que vous en ayez vraiment pris conscience. On va reparler de retour de la pause. Je dois prendre une petite pause.
Témoignage, échange, discussion. Jusqu'à midi, vous écoutez Dan Bigra.
Je vous rappelle que je suis toujours avec Mira Gravel-Crevier, qui est psychologue et copropriétaire de la clinique d'anxiété de Laval. Et là, je reçois une de mes chums, Florence K. Allô, ma belle Florence.
Salut, Dan.
Je suis obligé de dire ma belle Florence parce que, bon, d'abord, on se connaît. On n'a pas été élevés ensemble, mais on a fait beaucoup de musique ensemble. Et puis, on s'est croisés il y a quelques jours sur un plateau de TV et t'es resplendissante. T'avais du soleil dans les yeux. Et c'est un soleil que je trouve d'autant plus extraordinaire après tout ce que tu as traversé. Tu as eu du travail à faire solide.
Oui, il y a eu du travail, mais oui, mais il y a aussi eu de l'aide psychologique et médicale.
Oui.
Et je pense que dans le cas de troubles de santé mentale chroniques, c'est indispensable de pouvoir avoir accès à des ressources professionnelles encadrées à long terme pour
Absolument.
Aller bien.
Absolument. Ouais, vraiment. Toi, c'est un trouble bipolaire, toi, donc ton humeur monte, descend, fait du yo-yo.
En fait, il y a beaucoup de... C'est drôle parce que quand on pense à la bipolarité, souvent les gens ont l'image de quelqu'un qui peut louer le stade olympique pour faire un rave un jour, puis après ça, avoir une grave dépression le lendemain.
Oui, ou le lendemain, être assis à une petite boule dans un placard, s'apercevoir qu'il faut qu'il paye le stade olympique.
Oui, c'est ça. Mais souvent, je trouve que l'image qui est véhiculée par le dans les médias ou par les rumeurs sur le trouble bipolaire est pas nécessairement celle qu'on vit. Puis, faut savoir qu'il y a plusieurs types de troubles bipolaires. 1, 2, 3, 4. Moi, je connais surtout le mien. Moi, donc, je suis du type 2. Mm-hmm. Et ça se traduit par des phases d'hypomanie. Donc, ça veut dire de la manie qui est, par exemple, je loue pas le stade olympique, mais j'ai quand même eu des... j'ai causé des graves catastrophes financières sous des impulsions. Ça m'a aussi drivé. Je pouvais passer des journées sans dormir puis travailler. Mais après ça, ces phases-là, pour moi, sont moins importantes et moins soulignées que les phases plus dépressives. Il y a un tournant dans ces phases-là, c'est des cycles et ça commence souvent dans mon cas parce qu'on sait que c'est pas c'est pas comme un gene qui va à tout le monde là, il y a différentes différentes formes exactement, mais ça se traduit par un tournant de l'anxiété avec beaucoup d'insomnie et moi dès que je commence à avoir un sentiment d'angoisse, me connaissant, je sais que si ça dure plus de 2-3 jours, ça peut péricliter en anxiété et c'est là que tous mes signaux d'alarme s'allument et que tout de suite j'appelle mon psy, j'en parle aux gens autour de moi pour qu'ils le savent, pour qu'ils me watchent et surtout je me donne des breaks avec le travail, je m'éloigne un peu, je prends du temps. C'est pas toujours facile à faire.
Prendre du temps, oui. C'est parce que quand t'es angoissé, tu veux combler le trou de l'anxiété en bougeant. Je comprends, mais ça marche pas, ça.
Non, ça marche pas. Mais tu sais, on trouve nos moyens. Je pense qu'une fois qu'on a un diagnostic, puis une fois qu'on apprend à connaître nos signaux d'alarme, puis à pas en avoir honte, à pas être dans le déni, à pas avoir peur d'en parler, c'est la plus grande étape. Parce qu'après ça, tu peux dire, OK, je sens une phase venir. Mes signaux sont en alerte. Qu'est-ce que je fais? Mais ça, c'est ça le travail à long terme, en fait. C'est plutôt ça. C'est d'apprendre à connaître notre maladie. Parce qu'à s'informer sur elle. Mais souvent,
on comprend que sur l'urgence, il y a des soins chimiques qui se donnent, il y a des molécules qui ont été créées pour les symptômes qu'on a, mais souvent, pas tout le temps, mais j'ai l'impression que souvent, c'est comme si tu as une pneumonie, tu as une pilule qui va t'empêcher d'éternuer, mais ça ne soignera pas ta pneumonie. Alors, donc, ce n'est pas un miracle. La pilule, c'est un outil, mais c'est le premier outil. Après ça, il faut que tu continues. Il faut être en thérapie, puis en thérapie, en vraie thérapie, là, tu ne t'assois pas devant le thérapeute et rien dire ou dire « mon boss n'a pas été fait aujourd'hui à shop ». Il faut que tu réussisses à un moment donné à établir une complicité pour être capable de parler ce que visiblement tu as fait.
Oui, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, puis tu as tout à fait raison, c'est que, en fait, les troubles dépressifs, les troubles anxieux, et même certains cas de bipolarité qui sont exacerbés par l'expérience de vie aussi, on parle d'une triade biopsychosociale. Ce sont des troubles biopsychosociaux. Ça veut dire qu'il y a trois aspects qu'il faut regarder. L'aspect biologique, l'aspect neurochimique, donc ça, c'est ce que tu disais, l'aspect médical. Oui. Et on s'entend qu'il y a différentes molécules pour différentes choses, puis ça prend pas juste une journée pour savoir quelle molécule marche. Là. Mm-hmm. Il y a des risques, parce que des fois, les taux d'idées suicidaires peuvent augmenter sur plusieurs semaines avant de redescendre. Il y a des antidépresseurs qui augmentent l'anxiété. Il y a des anxiolytiques qui vont nous déprimer encore plus. Donc, c'est très délicat. Ensuite, tu as l'aspect donc biopsychosocial, l'aspect psychologique. Puis ça, c'est ce que tu disais, c'est la thérapie de fond. Là, je vois deux problèmes en général, d'après ce que j'entends puis j'observe autour de moi avec l'aspect psychologique. Un, c'est le problème de ressources. C'est pas tout le monde qui a 120$ ou 130$ par semaine ou même deux fois par semaine pour aller suivre un traitement. C'est pas tout le monde qui a des assurances, surtout en ce moment avec la précarité.
Oui, puis on voyait, j'ai parlé de nos auditeurs qui, lui, il discute avec des ordinateurs. Il n'arrive jamais à parler à personne. Ça le rend dingue, là.
C'est très difficile. Les soins sont très difficiles. Il n'y a pas, au niveau de la prévention non plus, c'est d'aller voir un psychologue dès qu'on commence à sentir que ça va pas. Moi, la première fois que j'ai été frappée par une dépression majeure, j'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. J'avais honte, j'avais des gros préjugés. Moi-même, j'avais 28 ans, je savais pas. J'ai attendu 6 mois. Puis c'était trop tard, là. J'étais rendue, tu sais, c'était beaucoup trop parce que j'avais honte. Puis l'autre problème que je vois, dans, puis tu t'en as parlé, hein, un traitement à long terme, les gens, ils vont mal, puis ils vont voir le psy, puis après ça, ils se sentent bien 3 semaines plus tard, puis ils se disent « Ah, c'est réglé ». Mais est-ce que...
Non. Oui, je comprends. Mais c'est parce que le soulagement est tellement bon que les gens ont envie de s'y accrocher, alors que c'est... Moi, j'ai déjà connu quelqu'un qui a commencé sa médication, il en a arraché pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il a dit « Oh, ben j'ai lâché, ça va mieux ». Je dis « Non, ça commence à faire effet ». Lui, j'ai engueulé, Soline, j'étais en maudit. Ça commence à faire effet, puis toi, tu penses que tes affaires sont réglées. Tu commences ta démarche. Alors là, t'es moins déprimé maintenant, c'est une bonne chose, mais t'es moins déprimé à cause d'une substance chimique. Maintenant, faut que tu fasses le restant du trajet, puis il est dur à faire, il est souffrant, parce qu'une thérapie, ça veut dire retourner dans nos souffrances. C'est pas tous les jours qu'on a envie de faire ça, là.
Non, puis l'important, c'est d'y aller aussi quand on va bien dans notre traitement, parce qu'il faut que le psychologue soit en mesure de voir, de prendre le pouls de notre rythme et de voir qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va mieux. Et quand on parlait justement de la triade, on a fait bio-psycho et l'aspect social, c'est l'aspect des circonstances et de l'environnement. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, puis pour revenir à ce qui se passe dans la pandémie, les circonstances qui entourent nos vies sont anxiogènes pour beaucoup. Et ça veut dire que si déjà on a dans notre être des autoroutes de pensée au niveau psychologique qui sont déjà un peu vulnérables, fragilisées, puis qu'on a quelque chose de biologique, à peu près, ça se peut qu'il y ait 15% d'un aspect génétique, par exemple, dans l'alcoolisme. Ce sont des chiffres, là. Il y a les études diffèrent des fois les unes des autres. Mais ce que je veux dire, c'est que là, s'il y a des facteurs externes qui se rajoutent à ça, ça peut être un deuil, ça peut être un divorce, la perte d'un emploi, perte de nos repères, un choc, ben là, tout est là pour qu'on développe. Des fois sans le savoir, ça peut être insidieux, un trouble de santé mentale. Puis de ça découle évidemment des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie, de violence conjugale, des problèmes à n'en plus finir. Il n'y a pas eu assez.
Mais l'alcool, la toxicomanie, c'est une tentative très maladroite de se soigner soi-même. Alors évidemment, ça fait beaucoup plus de dégâts que ce que ça soigne, mais on s'en rend même pas compte. Si t'es trop anxieux, à un moment donné, on connaît tous la phrase « Hey, la première bière va être bonne à la fin d'une journée de travail ». Oui, la première est bonne, la deuxième essaye d'imiter la première, puis la troisième gâche tout. Mais la première est bonne, je peux t'en parler par expérience, je suis abstinent depuis un quart de siècle, mais je suis alcoolique, je sais exactement comment ça marche, cette façon-là de te rassurer, puis ça prend des années avant de t'apercevoir que tu es un très, très, très grand anxieux. Je vais vouloir parler d'un aspect un peu plus physique de tout ça, tout de suite après la pause, et puis je vous rappelle que je garde Florence K pour un autre bloc, en fait, jusqu'à la fin de l'émission, et aussi, elle ne s'est pas manifestée tout de suite, mais on va lui reparler tout de suite après la pause. Elle est avec nous encore, Mira Gravel-Crevier, qui est psychologue copropriétaire de la Clinique d'anxiété de Laval. On revient tout de suite.
Approfondir le sujet de l'heure jusqu'à midi. Vous écoutez Dan Bigra.
Alors, je vous rappelle qu'on parle d'anxiété, que je suis avec Mira Gravel-Crevier, psychologue copropriétaire de la clinique L'Anxiété à Laval. Et je suis aussi avec mon amie Florence K, qui est auteure, compositeur, interprète. Elle a écrit un livre autobiographique qui s'appelle Buena Vida, la bonne vie. Justement sur toute son histoire. Elle a été très, très, très loin dans la souffrance et elle nous est revenue. Puis je peux vous le confirmer, je l'ai vue il y a 2 jours, puis elle nous est revenue radieuse et merveilleuse, encore plus que d'habitude. Et c'est important dans son cas parce qu'elle fait un métier de communication. Elle passe par la musique. Là, elle a passé par un livre, mais elle passe par la musique pour aller nous rejoindre. Fait que ses humeurs à elle nourrissent ce qu'elle crie puis ce qu'elle nous communique. Fait qu'on va parler avec Florence pas mal beaucoup aussi. Mais là, on a un appel de Normand pour commencer. Salut, Normand.
Bonjour, vous autres.
Bonjour.
L'émission aujourd'hui, elle vient me chercher, tu peux pas imaginer comment.
Ah oui?
C'est bon, oui. J'ai un hamster gris qui m'aide pas en tout, comme on dit.
Ah, je connais.
Il est noyé. Oui, il travaille en maudit. En plus d'être TDAH, en plus d'être bipolaire, un cocktail un peu de tout. Puis avec ça, ben, je sais pas. Pour moi, j'ai un ange gardien qui m'aide à cheminer en bonne et due forme. Mais c'est pas évident, c'est pas facile.
Non, c'est très, très difficile. Vas-y, Florence.
Tous les jours, hein? Excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre.
Non, vas-y, tu m'interromps quand tu veux.
Que vous disiez, cheminer, c'est un mot important, je pense, parce que les troubles de santé mentale comme ça, quand c'est chronique aussi, ça partira pas. Mais il faut apprendre à danser avec puis à mener la danse. Mm-hmm. Puis on c'est un combat de tous les jours.
Oui, Madame Crevier,
vous allez dire quelque chose? Je vais l'arriver justement à mieux comprendre. Déjà, on a vu plusieurs exemples aussi, beaucoup avec Laurence Kahn, la triade bio-psychosociale. Mm-hmm. Mais ça transparaît dans le discours d'aller consulter, de comprendre ce qui nous arrive, de reconnaître les signaux d'alarme, d'être capable d'intervenir pour être capable de trouver des moyens puis de retrouver une certaine forme de qualité de vie, là, malgré les services, effectivement, le manque de ressources qui est quand même là.
Oui. Mais j'aime beaucoup l'appel de Normand, ce qu'il appelle son ange gardien. D'après moi, c'est son instinct de survie émotive. Je crois que c'est ça qui le mène, oui, et qui est solide et que c'est un combattant. Et faut, oui, faire attention, les combattants n'ont pas tous des gros muscles. Faites attention. Non. Je me suis fait planter, moi, dans mon sport par des gens moins solides.
Et puis,
oui, le courage détermine tout. La résilience se fait à partir du moment où on est capable, justement, de verbaliser. Là-dessus, tout le monde, je voulais juste faire remarquer que ma question que je posais au public en début d'émission, c'est, depuis la pandémie, est-ce que vous avez remarqué que l'anxiété a augmenté autour de vous? Il y a eu énormément de gens qui ont appelé. Je suis désolé, j'ai pas pu prendre tout le monde, mais tout le monde ont appelé pour leur propre anxiété. Et ça, il n'y a aucune thérapie qui commence, il n'y a aucun aller mieux qui commence sans une verbalisation, une prise de parole qui est comme le début d'une prise de contrôle sur notre souffrance. On commence déjà à l'identifier, à en parler, et on appelle à la radio pour le dire. Je trouve ça énorme, ça prend beaucoup, beaucoup de courage. C'est très inattendu, je m'attendais pas à ce que ça tourne à ça. Mais moi aussi, ça me ramasse beaucoup. Je trouve ça très le fun que tous ces gens-là aient eu le courage de nous appeler. Évidemment, Florence, on parle même pas de ton courage à toi. Il est énorme. Tu as déjà tout traversé. Tu l'as fait publiquement aussi. Tu n'as rien caché. Et là, tu reviens à la musique. Puis bon, on sait, la musique fait partie de nos soins à nous, mais c'est pas suffisant. Puis à un moment donné, moi, dans ma vie, c'était pas suffisant. J'ai dû aller faire du MMA, des arts martiaux mixtes, pour aller plus loin dans ce que j'avais vécu comme violence, puis me soigner. Puis ça m'a sauvé la vie. Ça m'a tellement aidé. Et toi, t'as passé par le yoga. On a un peu fait la même chose, chacun dans notre bague, là.
Ouais. Le yoga m'a vraiment, vraiment aidé dans une période avec l'anxiété. Puis je dirais qu'en même temps, j'avais décidé d'entreprendre après être sortie de l'hôpital, j'ai entrepris un certificat en psycho à la TELUC, puis ensuite un DESS en santé mentale à la TELUC. Puis là, ils m'ont crédité pas mal de mes cours à l'UDM, puis je rentre en dernière année en psycho, en fait. Puis mon rêve, ce serait dans un an et demi d'appliquer au doctorat en psychologie pour éventuellement pratiquer.
Oui, moi, quand tu parlais de te garder du temps à toi, voyez un peu, hein?
Ben, c'est donner du sens, du moins, à ce qu'elle vit.
Oui, 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 absolument. Elle donne l'importance à ce qu'elle vit et aux solutions, oui, qu'elle trouve. Je trouve ça fantastique.
Une forme de résilience.
Mais Florence sait que je taquine tout le temps, elle est au courant, là.
Mais non, je le sais. Mais je trouve qu'il y a aussi quelque chose que puis je le dis comme ça, là, je veux. La musique, là, moi, à un moment donné, parce que j'adore faire de la radio, je suis à CBC, puis j'aime parler des autres. La musique, là, d'être toujours plongée dans ses propres émotions quand t'écris, puis tout. Moi, j'étais tannée, là. Comme, tu sais, j'ai écrit un album, j'ai mis tout mon jus l'année dernière dessus, puis. Je veux dire, l'album est sorti, la pandémie est arrivée, on sait ce qui arrive dans le milieu des arts.
Oui.
Puis pour moi, j'ai vraiment fait comme, maintenant, je veux plus parler de mes émotions, je veux écouter celles des autres puis pouvoir utiliser les miennes pour les aider avec une formation. Puis ça revient un peu à ce que tu disais avant, tu disais verbaliser. Quand on extériorise la maladie, qu'on est incapable de mettre des mots dessus, on se distance d'elle-même et on réalise que la maladie...
On lui donne un sens.
Ben, c'est ça, puis c'est pas nous. On n'est pas la maladie. Puis ça, c'est un pas super
important. Ça, c'est une autre chose. La maladie ne nous définit pas. J'adorais un propos de Xavier Dolan qui a dit, quand je me présente, je dis pas que je suis Xavier Dolan homosexuel. On a énormément de choses qui nous définissent. C'est tout le temps qu'on a. Je suis un peu désolé, j'aurais fait 3 heures encore là-dessus avec vous autres.
Mais oui.
Madame Gravel-Crevier, merci infiniment d'avoir été avec nous. Myra Gravel-Crevier, oui, psychologue, copropriétaire de la clinique d'anxiété de Laval. Passez une belle journée, madame. Et on a ma vieille chum, Florence K. Alors, à demain. Merci beaucoup.